Pour notre méditation ce matin, j'ai retenu un passage de l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 14. Voici ce que l'Évangile nous raconte. Jésus obligea les disciples à monter dans une barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin, en pleine nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantasme !» Et dans leur peur, ils poussèrent des cris, mais Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Avant d'entreprendre non seulement cette traversée du lac de Galilée, mais cette traversée du texte biblique, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants au numéro 204. Nous chanterons les strophes 1 et 2 de ce cantique 204. Levons-nous pour chanter Dieu.
Thank you.
Éternel, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, qu'il serait bon que la vie soit aussi simple que l'Évangile. Face à une étendue d'eau, il suffirait de faire un pas de plus pour pouvoir continuer sa route, sans avoir besoin de louer quelque embarcation. Ah, si la vie était aussi simple que l'Évangile! Il n'y aurait plus besoin de mettre des barrières autour des piscines pour éviter que les enfants s'y noient. Toutefois, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour se baigner et profiter de la villégiature. Quant à la plongée sous-marine et les fonds sous-marins, ils nous seraient tout à fait interdits. Mais au moins, la mer ne serait plus un obstacle entre les personnes ni un risque majeur. Elle ne symboliserait plus ce qu'elle représente dans les textes bibliques, le lieu du chaos, le lieu de la mort. Le lieu de la mort possible. Les migrants ne mourraient plus ni d'étouffement dans les cales des bateaux, ni de noyade en cas d'avarie. Cet épisode intervient juste après la multiplication des pains. Un texte qui ne parle pas de multiplication des pains, mais de Jésus en tout cas, qui nourrit des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ah, si la vie était aussi simple que cela! Nous ne parlerions plus de faim dans le monde. Oui, il serait bon que la vie soit aussi simple que l'Évangile. Et après tout, qu'est-ce qui empêche qu'elle le soit? Ce passage biblique est précisément là pour dire que la vie est appelée à être simple, simple comme l'Évangile. Et pour cela, il faut évidemment commencer par faire abstraction des questions physiques liées à la densité de l'eau ou au principe d'Archimède que Matthieu ne pouvait ignorer puisqu'Archimède était passé par là 200 ans avant, à tout le moins. L'auteur biblique, voyez-vous, n'a aucune raison de méconnaître les lois de la physique. Il n'a aucune raison d'ignorer la résistance des matériaux, les caractéristiques physiques de l'eau, et précisément, c'est parce qu'il sait tout cela, c'est parce qu'il a des connaissances scientifiques modernes, dirions-nous, qu'il peut nous livrer un enseignement de cette nature, mais non pas sur la physique, car la Bible n'est pas un traité de physique, mais sur notre vie, et notre vie face à ce qui est à venir. La Bible s'intéresse précisément à l'homme dans le monde, à l'homme avec les caractéristiques physiques qui l'environnent, mais l'homme face à ce qui est à venir. Et c'est sur ce terrain-là que nous pouvons entendre l'évangéliste Matthieu nous dire quels sont justement deux freins à la vie simple, mais aussi quel en est le puissant moteur qui permet de surpasser ces deux freins. Le premier frein, le plus massif, celui qui est le plus souvent mis en évidence dans les textes bibliques, c'est la peur. La phobie, si nous reprenons la racine du terme grec. Ici, il est plusieurs fois fait question de la phobie. Les disciples sont saisis par la phobie. Et lorsque la peur est mise en scène, c'est pour montrer en quoi elle handicape, en quoi elle empêche d'atteindre ses objectifs, ou pire, de quelle manière la peur nous conduit à faire l'inverse de ce que nous voudrions faire. Ici, les disciples ont peur parce qu'ils voient ce que le texte grec désigne par le mot « fantasma » et que les traductions rendent le plus souvent par « fantôme », mais autant utiliser le terme « fantasme ». Car ce que voient les disciples, c'est une apparition. Et cette apparition, ils essaient de la comprendre, ils la reconstruisent. Elle devient pour eux fantasme. Les disciples voient un fantasme et cela les rend phobiques. Approche intéressante, je trouve, qui nous dit que la peur, ici, est suscitée par une altération du réel. Notre perception dénature le réel. Les disciples voient quelque chose apparaître, ils ne savent pas très bien ce que c'est, ils devinent que c'est une personne sans reconnaître Jésus, ou alors ils le reconnaissent mais ils ne veulent pas le croire que c'est lui, et ce serait donc quelqu'un qui se fait passer pour lui. « Oui, si c'est bien toi, ordonne-moi d'aller sur l'eau », dit Pierre. Il n'est pas tout à fait sûr que ce soit Jésus. Mais peut-être qu'au départ, ils ne sont pas tout à fait sûrs que ce soit une personne. Comme le dit très bien le texte, ils sont troublés. Leur perception est défaillante. Mais leur cerveau continue à recevoir des signaux incohérents qu'ils ne savent pas analyser convenablement, et cela leur fait peur. Ils ont peur à cause de l'inconnu, à cause de ce qu'ils ne comprennent pas, à cause de ce qu'ils n'arrivent pas à rationaliser. Leur phobie tient à cet écart qu'il y a entre ce à quoi ils s'attendent et ce qui se passe effectivement. Comprenez bien que lorsque nous sommes sur un bateau, la dernière chose à laquelle on s'attend, c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre en marchant sur l'eau. Et imaginez que c'est entre 3h et 6h du matin. Ce n'est pas l'heure où nous sommes le mieux disposés pour les plaisanteries. En transposant dans la vie quotidienne, nous réalisons que la phobie, la peur, peut être provoquée par une mauvaise appréciation du réel. Oh oui, il y a parfois de bonnes raisons d'avoir peur. Il y a parfois des raisons objectives de se sentir menacé et d'avoir peur. Mais ici, ce n'est pas le cas précisément. Ici, les disciples sont assaillis par une phobie parce que leur perception leur donne une fausse image du réel. Et cela nous arrive bien souvent. Par exemple, il se pourrait que vous soyez hydrophobe, la peur de l'eau. Alors bien sûr, l'eau peut être très menaçante. Et peut-être d'ailleurs que Pierre va devenir hydrophobe ensuite. Parce que risquer de se noyer ne laisse pas de bons souvenirs. Mais l'eau a aussi des vertus très positives. L'eau est même source de vie. Et si on utilise l'eau pour les baptêmes, ce n'est quand même pas pour vouloir du mal aux jeunes baptisés. On verra plus tard si Jeanne et Clément sont devenus hydrophobes. On vérifiera en particulier pour Clément. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il se peut que nous ayons dans notre vie quotidienne un rapport à notre environnement qui soit un peu en décalage à ce que notre environnement est effectivement. Prenons d'autres phobies, plus d'actualité. L'homophobie et l'islamophobie. Quand ces deux termes sont pris pour ce qu'ils désignent, la peur d'eux et non pas la haine d'eux. L'homophobie, ça ne devrait pas désigner la haine de l'homo, de même que l'islamophobie ne devrait pas désigner la haine de l'islam ou des musulmans, mais la peur. Eh bien, ces deux termes disent le décalage qu'il y a entre ce qu'est une personne homosexuelle, ce qu'est l'islam ou ce que sont les musulmans, et l'image, le fantasme que nous nous en faisons. Moins nous connaissons ce que nous voyons, plus nous imaginons ce qu'il est, plus nous reconstruisons son identité, et plus nous avons de risques de nous éloigner de ce qu'il est véritablement. Et plus ses réactions, évidemment, plus ses attitudes seront susceptibles de nous faire peur et donc de créer un malaise. S'il peut y avoir une phobie due à une mauvaise expérience préalable, ce passage biblique nous met surtout sur la piste de la phobie provoquée par une faible connaissance de la situation éprouvée, une trop faible connaissance de la personne rencontrée. Le deuxième frein, après la peur, le deuxième frein spécifiquement décrit sous la plume de l'évangéliste Matthieu, c'est l'hésitation. Le verbe « distazo » est couramment traduit par « douter ». Je n'ai pas trouvé une traduction qui utilise un autre terme que « douter ». Alors, vous pourrez toujours douter de ma bonne traduction. Ça, j'espère que vous le ferez sans hésiter. « Distazo ». « Distazo », il y a le préfixe qui nous dit que Pierre, en l'occurrence, est partagé entre deux positions. Il hésite. Il ne sait pas que choisir. L'habitude est de considérer qu'il faut traduire par « douter » parce que nous sommes dans un contexte de foi. Jésus vient de dire à Pierre « homme de peu de foi ». Et du coup, l'habitude est de considérer que l'inverse du peu de foi, l'inverse de la foi, c'est le doute. Et donc, le traducteur s'attend à ce que Jésus, après avoir reproché à Pierre son peu de foi, lui dise « tu as trop douté ». Mais le verbe « distazo » mériterait vraiment d'être traduit par « hésiter ». Le problème de Pierre ici n'est pas le doute, le problème c'est qu'il a hésité. Il y avait d'un côté cette parole d'autorité de Jésus, « viens », on pourrait aussi traduire par « va ». Cela nous ferait penser à l'appel lancé à Abraham en Genèse 12. Et de l'autre côté, il y a le vent. Et Pierre voit que ce vent est fort. Et lequel des deux est le plus puissant? Lequel des deux doit l'emporter? Auquel des deux Pierre doit-il se rallier pour être sûr de ne pas sombrer? Eh bien, c'est une hésitation. Et cette hésitation, c'est ce qui coule Pierre. Le doute, ce n'est pas cela. Le doute, d'ailleurs, ce n'est pas l'ennemi de la foi. Le doute, c'est le meilleur serviteur de la foi. Le doute, c'est ce moyen formidable par lequel le croyant casse les idoles, laisse les fausses idées, ne voue pas son âme aux forces destructrices, mais interroge, soumettant à la critique de son intelligence ce qui lui est dit, ce qui lui est montré, ce qu'il voit, ce que d'autres ou lui-même tiennent pour vrai. C'est par exemple Salomon qui vient de faire construire le temple et qui se dit « mais l'Éternel, qui est une figure de l'infini, tiendrait-il vraiment tout entier dans ce bâtiment construit de main d'homme ?» C'est évidemment Martin Luther qui remet en cause l'infaillibilité des conciles et a fortiori du pape. C'est Sébastien Castellion qui critique le fait que la raison doive se soumettre devant le texte biblique, alors qu'on a toujours dit « sola scriptura » et qu'on l'a toujours compris comme « le texte biblique est au-dessus de tout ». Le doute n'est donc pas l'hésitation dont il est question ici, car le doute, c'est de prendre une question à bras-le-corps, s'en charger de tout son être, et la passer au crible de notre instance critique, pour voir ce qu'il en reste au bout du compte. Peut-être à la manière de René Descartes, ce René Descartes que nous aimons bien et qui expliquait que les évidences, ce n'est pas ce qui est évident, ce qui vient comme cela. Les évidences, c'est ce qui reste après le long et exigeant travail du doute. L'hésitation, c'est justement le fait de ne pas s'investir dans un sérieux travail de doute. L'hésitation, c'est arrêter sa démarche scientifique en cours de route, celle qui consiste à essayer de falsifier les théories pour ne garder que celles qui résistent à l'examen. Un examen sérieux qui produit ensuite des éléments sérieux sur lesquels nous pouvons prendre appui et avancer. L'hésitation. L'hésitation, c'est ne pas surmonter le trouble, ne pas surmonter la complexité d'une situation et du coup se trouver totalement démuni. C'est ne pas mettre en place quelque méthode que ce soit. C'est ne pas fractionner le problème a priori insurmontable en plus petits problèmes qui seront plus faciles à résoudre. L'hésitation, c'est s'immobiliser. Être comme tétanisé parce que nous sommes incapables de choisir. C'est comme cette âne qui meurt de faim et de soif parce qu'il ne sait pas s'il doit commencer par l'avoine ou par l'eau. C'est comme Pierre qui finalement a le pied dans deux barques différentes. Il ne sait pas laquelle choisir et du coup, il en vient à plonger. Incapable de discerner ce qui convient, incapable de hiérarchiser et du coup, incapable de s'engager et de vivre. Voilà les deux freins que le moteur chrétien parvient à surmonter. Et ce moteur, c'est la foi. Réponse attendue, me direz-vous, dans un temple. Mais essayons d'entendre ce qu'est la foi et de l'entendre à nouveau frais grâce à l'évangéliste Matthieu. Dans ce passage, la foi n'est dite qu'en creux, je dirais même en défaut avec Pierre. Oligopistos, voilà de quoi Jésus traite Pierre. Si vous avez un jour une récrimination à faire sur l'un d'entre nous, oligopistos, peu de foi, homme de peu de foi. Foi quand même si c'est petit comme une graine de moutarde, il y a quand même un petit quelque chose. Alors nous ne serons pas en capacité de mesurer la foi effective de Pierre. Nous ne saurons jamais s'il était plus ou moins croyant que nous et si nous pouvons nous consoler de notre foi en regardant celle de Pierre en nous disant « vu ce que valait Pierre, on n'est pas si mal que ça ». En revanche, nous sommes en mesure de comprendre que la foi n'est décidément pas une liste de choses qu'il faudrait tenir pour vraies et qui constituerait un catéchisme. Vous voyez que Jésus n'a pas vraiment eu le temps d'interroger Pierre sur sa doctrine. Ce n'est pas ça qui est en jeu ici. Dans la perspective de Matthieu, la foi est bien plutôt un lien de confiance, allons-nous voir, entre le croyant et ce que Jésus incarne. En lui disant qu'il a peu de foi, Jésus repère chez Pierre la cause de son début de noyade. S'il s'est enfoncé dans la mer, s'il n'est pas resté au-dessus de cette mer qui représente tout ce qu'il y a de dangereux dans la vie, c'est parce qu'il n'y avait pas que de la foi chez Pierre, mais aussi de l'hésitation. Plus d'hésitation que de foi. Et pour pallier à son manque de foi, Jésus a saisi Pierre. Il l'a saisi par la main. Les disciples qui n'étaient troublés que par la peur et non pas par la foi ou l'espérance, ces disciples qui étaient saisis totalement par la phobie, eh bien Jésus est allé vers eux et leur a tendu la main pour les saisir, de telle sorte qu'ils soient saisis par autre chose que la phobie. Ici, Jésus saisit Pierre par la main. Et en agissant ainsi, il compense le manque de foi de Pierre. Et ce faisant, il accomplit ce qui est nécessaire pour que la foi soit vraiment la foi. En étant saisi par Jésus, Pierre a été saisi par ce qui, pour lui, était susceptible d'incarner le sacré, le divin. Pour pallier au peu de foi de Pierre, Jésus a précisément accompli la dynamique de la foi qui consiste à saisir la personne, à la saisir totalement, pour la mettre en relation avec l'ultime, du moins est-ce là la perspective que développe le théologien Paul Tillich, et je crois l'évangéliste Matthieu avant lui. Ce qui a fait défaut aux disciples, et notamment à Pierre, premier des évêques de Rome, c'est d'être totalement saisi par un idéal de vie. En n'étant pas entièrement tendu vers cette vie divine dont les textes bibliques révèlent la teneur, en n'étant pas relié à l'espérance divine, les disciples étaient susceptibles d'être ballottés par la première puissance venue, ici le vent. Mais n'accusons pas à outrance les disciples. Après tout, ils ne servent qu'à souligner ce qu'est la foi. Ce sont comme des figures littéraires qui mettent en évidence la foi véritable que les textes bibliques entendent révéler. Parlons de ce moteur de la foi dans des termes positifs auxquels nous pourrons peut-être adhérer et qui nous permettront de simplifier notre vie, qui nous permettront de ne pas nous enfoncer dans les problèmes du quotidien, parce que l'un des grands bénéfices de la foi, c'est de stopper l'immobilisme. La foi est confiance. La foi est ce lien qui unit l'homme à une autre personne, ou plus majestueusement peut-être à la vie elle-même. La foi, lorsqu'elle est relation à l'autre, est l'affaire d'une connaissance qui surpasse toutes les méconnaissances, qui ne se contente pas des fantasmes, mais qui vient rejoindre l'âme de celui qui se tient là, devant moi. La foi interroge. La foi interroge pour se lier à ce que l'autre est vraiment, à ce dont l'autre est véritablement porteur, et plus encore peut-être, à ce dont l'autre est promesse. Car la foi ouvre un avenir pour celles et ceux qui se font confiance, celles et ceux dont la foi devient un moteur. Et du coup, la foi met à mal les phobies, car la foi s'intéresse à la vérité, que ce soit la vérité d'une personne ou la vérité de l'être. La foi n'a que faire des rumeurs, elle n'a que faire des qu'en dira-t-on, car la foi s'intéresse à l'être vrai de la personne, à ce qu'elle porte en elle, au plus profond de son identité. La foi s'intéresse à l'homme véritable, l'homme secret parfois, l'être vrai, celui qui crie « Sauve-moi ! Sauve-moi du non-être ! Sauve-moi de la noyade dans la mer de l'indifférence, dans la nuit de la phobie, dans l'impossible aurore de l'hésitation infinie. Sauve-moi !» Voilà ce que crie l'âme assoiffée de vie, à l'âme qui se tient là, et entre lesquelles le lien de la foi peut se tisser. La foi, lorsqu'elle est relation au divin, lorsqu'il s'agit de la foi en l'éternel, devient cette passion pour la vie en plénitude, pour la vie débarrassée du non-sens absolu. La foi en l'éternel, dont Jésus a manifesté l'intensité, c'est ce oui. C'est ce oui que nous prononçons à la vie parce que nous intuitionnons que la vie est bonne, que le monde est vivable, même s'il mérite d'être franchement amélioré. C'est ce oui des parents qui ne font pas des cadeaux empoisonnés à leurs enfants en les mettant au monde, mais qui leur donnent à espérer ce qu'eux-mêmes intuitionnent, la possibilité d'une vie bonne, d'une vie réjouissante, d'une vie profondément jouissive. La foi en l'éternel, c'est cette passion pour une vie où les tourments sont surmontés. Une passion telle que les vents contraires sont insuffisants pour nous faire rebrousser chemin. C'est la foi qui nous réveille, c'est la foi qui nous redresse, c'est la foi qui évidemment nous ressuscite, c'est la foi qui nous fait aller, c'est la foi qui nous fait rejoindre les vrais sujets, qui nous donne de l'ardeur pour les causes qu'il faut défendre, pour la justice, pour les plus faibles, pour les humiliés, pour la créativité, pour la liberté, pour l'amour. Une foi que rien ne vient contrarier, pas même celles et ceux qui voudraient nous faire peur, celles et ceux qui voudraient nous faire hésiter, celles qui voudraient nous terroriser. Cette foi fait tomber les vents contraires. Elle vide les phobies de leur contenu. Elle dissipe toute hésitation. Cette foi, c'est ce qui nous arrache à ce qui pourrait nous couler, à nous faire sombrer. Cette foi, c'est ce qui nous permet de relever notre existence et d'embrasser irrésistiblement la vie. Amen.